10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bien bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme tous les jours, nous sommes ensemble, ensemble pour commenter, analyser, décrypter l'actualité. Jusqu'à 11h, nous sommes ensemble, y compris vous, au 01 53 48 3000. Chers amis auditeurs, vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux et je suis évidemment satisfait puisque vous intervenez, vous commentez l'actualité à votre façon, à votre manière et en toute liberté d'expression. Qu'est-ce qu'il y a de mieux, évidemment, dans une station où vous commentez l'actualité de façon libre? C'est ici que ça se passe. Alors continuez à nous appeler. On va parler, vous savez, au sommaire de cette émission, eh bien, de plusieurs sujets. D'abord, direction le Sénégal. Le Sénégal qui vient de sortir à peine d'une crise politique majeure. Le pays a connu une petite secousse, évidemment. D'un côté la population et de l'autre évidemment les institutions et les pouvoirs publics. Macky Sall a dû-t-il céder? Eh bien la question qu'on se pose, mais surtout le jeune président à peine élu, eh bien il a fait déjà des déclarations, il a 44 ans à peine et on reviendra sur ce sujet qui nous concerne évidemment puisqu'il a lancé un message en France, y compris la manière dont il voit le partenariat d'égal à égal et non plus cette vision qu'on a de l'Europe vis-à-vis du Sud, c'est-à-dire du continent africain. Ensuite nous parlerons avec nos débatteurs influents. Ici même, on reviendra sur justement le Sénégal. On parlera sur cette guerre en Israël et le Hamas qui continue avec ce cessez-le-feu. Pourquoi il a du mal? Pourquoi la résolution a du mal à prendre forme et pourquoi le cessez-le-feu fait polémique? On en parlera ici même. Nous reviendrons sur ce déficit. Vous savez, le déficit qui était à 5-5. Alors, beaucoup de personnalités politiques chez les Républicains réclament la démission de Bruno Le Maire. Pourquoi? La question, c'est pourquoi? Pourquoi on réclame sa démission? Il y a une raison, évidemment. Nous allons en parler ici. On viendra aussi, vous savez, sur cet événement. Ça s'est déroulé hier à Nice. Nice, tir à balles réelles, lynchage, coup de marteau. Et on parlera justement de ces jeunes confrontations avec... dans le quartier des Moulins à Nice. Nous reviendrons avec cette confrontation jeune police. Ça tombe bien, nous avons un ancien membre du RAID donc, qui est avec nous. Et puis lui aussi, il est très impliqué dans les quartiers populaires. On tentera de comprendre évidemment pour quelle raison c'est tout le temps en permanence sous tension. C'était la Courneuve il y a la semaine dernière, la Nice. Pourquoi cette tension permanente et récurrente? Le Quoi de Neuf avec le docteur Majid Seoussine, c'est tout à l'heure à 10h50 précisément. Il reviendra lui avec son regard sur son billet d'humeur, vous le savez. Comme chaque mercredi, il parlera de déficit d'attentats de Moscou et de France Info. Bon, eh ben, on comprendra évidemment son billet d'humeur tout à l'heure. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et oui, plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Ibouba, qui est journaliste. Bonjour Ibouba.
Bonjour Amin Farkan.
Merci d'être avec nous Ibouba. On va revenir avec vous, vous savez quoi, sur cette situation au Sénégal. Le Sénégal qui a élu donc Bassirou de Diomaye Faye, qui était un candidat souverainiste et qui est tout jeune, donc rappelons-le, il sort il y a à peine quelques jours de prison puisqu'il est emprisonné. Racontez-nous un petit peu aujourd'hui le Sénégal depuis que ce jeune président est élu. D'abord, comment ça s'est déroulé effectivement? Est-ce que les Sénégalais voulaient ce changement?
Oui, absolument, Adil Farkan. Comme vous savez très bien, le Sénégal a un grand peuple, donc un peuple qui a toujours inscrit la démocratie dans ses livres d'or. Et comme vous le savez très bien, depuis les années 1800 jusqu'à nos jours, donc le Sénégal a toujours prouvé que c'est un pays démocratique et un peuple résilient, donc une nation très forte. Et ce qui s'est passé, c'est l'ex-président de la République, il n'est pas encore ex, mais bientôt ex-président de la République, Macky Sall, donc en fin de son magistère, il y a eu quelques turbulences, où d'ailleurs, M. Diomaye Faye donc, a été sujet de cela, car il vient de la prison il y a à peu près quelques jours.
Oui, 10 jours à peine, effectivement.
Et vous pouvez constater que donc, de la prison au palais présidentiel, comme l'a fait Nelson Mandela, et c'est notre Nelson Mandela donc, du Sénégal.
C'est le nouveau Nelson Mandela du Sénégal. Vous pesez évidemment vos mots quand vous dites ça, c'est pas la même histoire, et pourtant vous faites la comparaison avec Nelson Mandela. Pourquoi?
Parce que ce jeune homme de 44 ans donc, qui vient d'une couche sociale un peu modeste, donc de son village de Ndagagnan, au fond donc, des bassins du Sénégal, au milieu du Sénégal, je dirais bien, donc dans la petite côte, alors qui vient s'installer à Dakar et qui avait comme option justement de travailler dans des conditions qui n'étaient pas idoines pour pouvoir réussir. Mais aujourd'hui, qui a serré la ceinture et qui est devenu ce qu'il est devenu malgré donc, toute cette turbulence. Il a toujours vécu cette turbulence, je voudrais le dire, en fait. Et avec le président Macky Sall, qui aujourd'hui donc, a laissé aussi faire entendre au peuple sénégalais qui était couronné effectivement de cette injustice, dont le peuple sénégalais en avait marre, cette absence donc de démocratie, cette absence de liberté d'expression, qui a valu tout cela donc à ces jeunes,
ouais.
Ousmane Sonko notamment, et Diomaye Faye, qui, je vous le disais tout de suite, venait de prison exactement pour les mêmes faits.
Il a rendu hommage d'ailleurs au président de son parti, hein, justement parce qu'il l'a remplacé à pied levé, il a été élu. Aujourd'hui, Ibouba, justement, on parle d'un partenariat, lui-même, le tout nouveau président, Diomaye Faye, pardon, il parle d'un partenariat correct qui doit être revisité. C'est quoi est-ce que je vous pose la question, est-ce que c'est un traitement d'égal à égal désormais que veut le tout nouveau président, à peine élu?
Oui, absolument. Vous savez, c'est cette nouvelle jeunesse hein, du continent africain. Bon, peut-être sûrement pas barricadé, mais qui voudrait quand même voir le changement un tout petit peu depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Nous savons très bien que, donc, surtout donc, ces populations qui, étaient colonisées par les Français ne vivaient pas exactement donc, cette envergure qu'ils devaient vivre depuis le temps jusqu'à nos jours. Et ce changement, il le faut. Puisque c'est traduit sur toutes les langues des jeunes africains de nos jours. Et ce changement, il le faut. Vous l'avez bien entendu. Donc, lors de sa première déclaration, il a mis l'accent sur donc, les réformes des institutions.
Exact.
La lutte contre la corruption. Donc, la lutte, l'allègement plutôt du coût de la vie. Et surtout aussi, donc, voir les contrats qui ont été signés en général donc avec les différents partenaires, puisque il faudrait que maintenant que le peuple puisse jouir donc de ces bienfaits qu'a donné le bon Dieu.
Les Sénégalais attendent beaucoup. Les Sénégalais attendent beaucoup de ce tout nouveau président Ibouba.
Absolument. Aujourd'hui donc les Sénégalais sont tous baignés dedans, comme vous le voyez. Donc voilà.
En même temps, ils ont besoin de la France aussi.
Ils ont toujours été frappés par la mélancolie.
Premier investisseur quand même les Français.
En quelque sorte, une page de vie quasiment dénaturée. Donc, à cette tension, il va falloir que Diomaye Faye puisse quand même sortir ses griffes et pouvoir régler, je ne dis pas dardard, mais faire l'essentiel maintenant, puisque les Sénégalais ont faim et n'attendront pas pour longtemps.
Merci, Bouba. Donc, on l'aura compris, le plus jeune président de l'histoire du pays, hein, c'est bien ça, hein, un anti-système.
44 ans.
À 44 ans, un anti-système, c'est comme ça qu'il se qualifie, effectivement. Et nous suivrons tout cela avec beaucoup d'attention. Merci, Bouba, journaliste, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, Adil Farkan. Merci à votre équipe.
Salut. Merci à vous. C'est parti tout de suite, le face-à-face, chers amis.
Les informés. Le face-à-face
avec Bruno Pomard, ancien membre du RAID. Mais
bonjour,
également aujourd'hui, le président fondateur, vous savez quoi, de la fondation RAID Aventure.
Tout à fait, il travaille sur le rapprochement jeune police depuis 34 ans.
Et puis il est sur tous les plateaux de télé, je vous ai vu partout là en ce moment.
Ouais, je suis une star.
Ouais. Ça va, on a deux stars alors.
Hein. Non, j'essaie de donner mon avis d'homme de terrain que je suis. Quoi. Je ne suis pas un politique, moi je suis
et
juste
vous êtes
un mec
maire.
De terrain.
Vous
je suis maire d'un tout petit village dans le sud et policier de base.
Il doit prendre du pognon avec les ronds-points.
et toujours très engagé pour la jeunesse des quartiers, parce que je trouve qu'il faut encore s'en occuper. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas caricaturer les quartiers qu'avec les trafics de drogue.
Il est beau, Bibi Nassiré.
Mais il m'a suivi dans plein de trucs, je sais bien.
Bibi Nassiré, justement, je le sais. Bibi Nassiré, bonjour. Acteur, scénariste, producteur. Comment ça va, Bibi Nassiré?
Ça va très bien.
Moi, je suis content parce qu'il y a la mentale 2. J'ai kiffé la mentale 1. Et maintenant que j'ai. Depuis que j'ai. En plus, vous l'avez annoncé ici, dans ce micro.
C'est vrai.
Donc, on l'attend. Moi, je veux l'avant-première. Attention,
je voudrais juste dire à propos de Bruno Pomard, même si des fois on se frite parce qu'on pense pas pareil, mais on se connaît depuis au moins 30 ans tous les deux. On a fait le tour de France déjà pour convaincre les gamins d'aller voter pour le civisme, pour la police, pour les pompiers, pour les médecins dans les quartiers.
On va en parler justement. Laissez-moi faire le tour de table parce que justement il y a des tensions en ce moment. Paul-Antoine analyste, bonjour Paul-Antoine.
Bonjour,
comment ça va?
Moi je suis entouré de stars, donc
le petit âme que je suis est ravi. Je suis impressionné dans mes petites chaussures. Je vais rien dire de l'émission.
exactement.
Vous avez on a menacé avant l'émission, ça a marché.
Ouais, ouais, moi je me suis pris, j'avais un flic à droite. Non, je me tais.
Un flic, un acteur et un influenceur.
Ah ouais, non, non, mais moi
c'est qui est en vogue.
Mais c'est pour ça.
Qui monte en puissance.
Qui suis-je pour parler?
Avant de dire ça. En plus, il est suivi par Bibi la Sirène, alors je me dis.
Ouais, j'allais dire ça, j'allais dire que je suis ces. C'est. Comment on dit?
C'est
postes, et à chaque fois, je le kiffe.
Il est bon.
Suivez-le, les amis, vous allez voir.
Il est juste.
C'est ça qui est important.
J'essaie d'être équilibré en tout cas.
C'est Amine, ça. Hein. Il est élu aussi, par ailleurs. Hein. C'est élu de la Courneuve. Pourquoi vous ne faites pas venir Bruno Pomard
quand il veut. Mais on fait un truc vraiment.
Si tu veux,
en dehors des institutions. On fait un truc, on va dans le quartier.
Ah, mais complètement. Ah, mais c'est exactement ce qu'on fait, nous.
Ah oui, absolument.
Bon, le rendez-vous est pris.
Alors, vous avez vu ? Rendez-vous est pris.
Ah oui, il n'a pas peur d'aller dans les quartiers.
Oui, et puis moi, les quartiers, je maîtrise.
Bien sûr, pas de souci.
Allez, messieurs, vous savez quoi ? Tir à balles réelles, s'il vous plaît, dans le quartier de Nice, sous tension, qui a été le théâtre de nouveaux affrontements. Ça s'est passé donc lundi soir à mardi, après-midi. Et ça me rappelle un peu ce qui s'est déroulé à la Courneuve. Maintenant, on parle de tir à balles réelles, lynchage, coup de marteau. Est-ce que les jeunes ont voulu se faire justement justice eux-mêmes hein, dans le quartier des Moulins de Nice? Qu'est-ce qu'on peut dire, évidemment, Bruno Pomar? Parce qu'il y a à peine une semaine, c'était la Courneuve, maintenant Nice. Les quartiers sont désormais sous tension, on peut le dire, oui, avec ce rapport police-jeune.
Bah, pas nécessairement le rapport police-jeune, mais je pense que
et
c'est surtout la lutte.
Avec le ministre de l'Intérieur, oui, justement, qui était là il y a quelques jours.
Oui, tout à fait, oui. J'ai vu que tu l'avais reçu. Oui. Je crois qu'on est dans la lutte de territoire pour les stupes. On sait que c'est un marché de plus de 3,5 milliards maintenant, donc c'est inscrit même au PIB, donc c'est pour dire que quand même c'est quelque chose d'impressionnant, et je crois que cette lutte est sans limite entre les gangs, entre les groupes qu'on rencontre dans nombreux quartiers, et c'est pour ça que le travail qu'a voulu mettre en place Darmanin de Place Nette, c'est une bonne chose, mais ça va pas régler sur le fond la problématique. C'est ce que je dis et ce que je redis souvent sur les plateaux de télé. Moi qui suis engagé depuis 34 ans dans les quartiers, je le vois bien, j'ai jamais habitué, je suis pas issu des quartiers du tout, mais j'ai vécu beaucoup et je continue à y aller beaucoup. Et je rencontre beaucoup de gens, beaucoup de familles. J'étais il y a peu de temps au Flamand, à Marseille et aux Égalades également, pour discuter avec les familles. Ce qu'on a besoin dans ces quartiers, c'est évidemment de la police et de casser ces réseaux, hein, des aides-mafias comme le clan Yoda, là. Ils ont pris un sacré coup sur la tête et c'est très bien. Mais après, tout ça, il faut le stabiliser. C'est ça le plus dur pour les politiques et pour les élus. C'est de stabiliser ces quartiers. Ça veut dire quoi, stabiliser? C'est toujours qu'il y ait en permanence des gens sur le terrain pour pouvoir mailler et occuper le quartier, parce que ce que je dis toujours, moi, la nature a horreur du vide. Donc si tu laisses la place, mais il y a les dealers, t'as les radicaux, les islamistes qui sont là présents, hein. Attention, je fais bien la différence, hein. Les islamistes, les gens qui font de la prédication et qui détournent nos jeunes, et ces gens-là, ben, ils arrivent sur un terrain qui est conquis puisqu'il n'y a personne. Donc s'il y a des associations, s'il y a des acteurs engagés, et on le voit d'ailleurs.
Mais pourquoi il y a des tensions? Parce que là, on a l'impression qu'il y a...
C'est du business qui...
Oui, c'est du business, on l'aura compris.
Oui, mais oui, c'est ça. Et tu as ça dans, grosso modo, une soixantaine de QRR, comme on dit, de quartiers de reconquête républicaine où malheureusement ces quartiers cumulent le plus de maux. C'est pour ça qu'on y est, nous, et qu'on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice social dans ces quartiers, c'est important. Mais encore une fois, il y a tellement de trafic de drogue, c'est exponentiel, on le sait, tout le monde le sait. Les policiers luttent comme ils peuvent avec l'OFAST, avec Tracfin, avec tout ce qu'on peut imaginer, on essaie de taper sur les flux financiers, etc. C'est une vraie problématique à régler. Mais elle ne pourra que se régler ensemble. Parce que moi, je pense souvent à ces quartiers, aux gens qui vivent dans ces quartiers. Parce qu'on a tendance, et on le voit dans les médias, sans arrêt de dire, les quartiers sont plombés par la gorge. Exactement. Mais il y a plein de gens, et moi j'en connais plein, qui bossent normalement, qui emmerdent personne, qui essaient de vivre normalement.
De gauche,
dans ces
quartiers.
Et c'est ça, les quartiers. Ben, bien sûr, c'est pas les 240 000 mecs qui font du stup, etc. C'est pas vrai. C'est ça, les quartiers aussi.
Alors, Amine, ça.
Ce n'est pas juste la majorité, c'est l'immense, l'écrasante majorité. Souvenez-vous, lors des émeutes au mois de juin dernier, lorsque on disait les quartiers sont à feu et à sang, etc., ça a donné lieu à, j'ai plus le chiffre exact, mais autour de 10 000, on considère qu'il y a 10 000 individus qui étaient concernés. Il y a 10 millions de gens qui vivent dans les quartiers populaires.
Exact.
Le rapport, il est là. C'est-à-dire que, parce qu'il y a 10 000 personnes, lors d'émeutes conséquentes, qui ont foutu le bordel, pour dire les choses très franchement, eh ben, il n'y a qu'à regarder les médias, il n'y a qu'à regarder les plateaux télé. Moi, je suis avare de ça. Et on a l'impression que ce sont les 10 millions de gens qui vivent dans ces quartiers qui sont responsables de tout ce bordel, alors que c'est absolument pas le cas. La question des violences que vous évoquez à l'instant, moi, évidemment, il faut la condamner, il faut lutter contre, il faut d'ailleurs, souvent à l'occasion d'affrontements entre la police,
c'était dans votre quartier,
exactement, et à l'occasion d'affrontements entre la police et les jeunes, souvent vous avez les défenseurs de la police qui viennent vous expliquer que mais non, il n'y a pas de violence, etc., etc. Alors ça, c'est des débats qu'on peut avoir, évidemment. En revanche, je ne les entends pas quand là, Bruno Le Maire va couper 130 millions d'euros dans le budget de la police. Quand les policiers se plaignent de ne pas être suffisamment formés, d'avoir aller dans les commissariats, c'est vétuste, c'est déplorable. Comment dans une puissance comme la France, on a des commissariats dans cet état.
Et pourtant, il y a eu une loi, la Lopmi, qui a été votée. Avec
exactement.
Des milliards,
et par contre, les moyens peinent à arriver. Quand les policiers se plaignent, quand ils manifestent notamment pour obtenir plus de moyens, les pseudo-défenseurs de plateau, on les entend pas souvent.
Bibi Nassiri.
Là, tout a été dit.
Non, mais surtout cette tension entre les gamins, les jeunes et le rapport à la police, quoi.
Ça a toujours existé. Moi, j'ai 60 piges. Quand j'étais gamin, on avait un rapport difficile avec la police. Les blousons noirs avaient des rapports difficiles avec la police. Ça a toujours existé. La police, les jeunes, ok. Mais c'est pour ça que tout a été dit. Faut donner des moyens à la police. Faut que la police revienne dans les quartiers. Faut lutter contre les trafics de drogue.
On a démantelé la police de proximité.
Bien sûr, c'était une belle chose. Et même plus que la police de proximité, j'ai fréquenté beaucoup de policiers quand j'étais avec Bruno. Il y avait des flics avec des idées, des fois on s'engueulait, mais qui avaient la conscience que quand on vient dans les quartiers.
Mais au moins il y avait un dialogue.
Non, mais quand on va dans le quartier, on a conscience qu'il y a un problème.
Ouais. Je vais marquer juste une courte pause, vous savez quoi, et on se retrouve. Je donne la parole aussi à Paul. Paul, aujourd'hui vous êtes timide, tiens. D'habitude, vous êtes plus.
Non, mais déjà, premièrement.
Je vous donne la parole juste après.
Ça marche.
Attends, il faut que je lance la pause, parce que regardez, il y a le réalisateur qui me dit il faut la lancer, sinon on va faire, évidemment. Venez aussi commenter l'actualité au 01 53 48 3000. Venez vous la commenter. Je vous attends. Le standard est ouvert.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Avec également Bibi Nassiri, avec Paul-Antoine, avec Bruno Pomari, enfin Aminsa. Très court, Bibi Nassiri, on n'a pas entendu Paul-Antoine.
Très court, je voulais juste dire que j'étais d'accord sur toutes ces histoires de police, d'armée et tout ça. Mais Bruno a dit, les islamistes dans les quartiers qui détournent nos jeunes. Je ne suis pas très copain avec les musulmans radicaux. Ils existent, ils sont là, c'est pas des terroristes, et s'ils détournent les gamins pour les emmener à la mosquée, pourquoi pas les emmener à la religion, pourquoi
pas. Même les radicaux, ça, je n'ai pas d'eau. Même ceux qui prennent qui tuent
c'est pas le sujet
pardon.
Voilà. C'est pas le sujet. Paul-Antoine, on vous a pas entendu.
Ouais. Bah oui, alors déjà, il y a quand même, pour le coup, sérieusement, sans rigoler, des plus spécialistes que moi sur la question. Là, je suis le seul à moins connaître le dossier, donc c'est normal que je parle moins. Moi, là où je suis un peu en désaccord, c'est que oui, il y a évidemment une tension entre ce qu'on appelle les jeunes de banlieue ou des quartiers et la police. Maintenant, par exemple, on prend le cas de Rennes, je crois que c'était il y a 2 semaines, oui. Où les mecs se sont... Rennes, c'est une ville quand même assez calme. Où les mecs se sont tirés dessus à la Kalachnikov, il n'y avait pas la police. La police n'est pas intervenue d'ailleurs.
Tout à fait.
Donc c'est pas... Pour moi, oui, il y a la police. Maintenant, vous sortez pas une arme de guerre pour tirer sur la police. Il y a deux flics qui passent, il n'y a pas un jeune qui dit tiens, je vais sortir ma Zastava M70 pour fumer un flic. Le flic, il gêne, le policier, pardon, il va gêner 20 minutes le temps qu'il passe le trafic. Après, il part parce qu'il peut pas rester. Donc le problème, à mon avis, c'est pas vraiment ça. Le problème, c'est que il y a la drogue est différente. Il y a 10 ans, 15 ans, ça dealait du hashish, etc. Ce qu'on appelle, moi je suis pas d'accord avec ça, mais ce qu'on appelle des drogues douces. Et maintenant, on va sur des drogues dures, c'est-à-dire la cocaïne, etc. Donc il y a beaucoup plus d'argent dans la cocaïne, donc beaucoup plus de violence, et parce que c'est aussi pas les mêmes clients. Le mec qui achète de la cocaïne, il peut être en manque, donc il peut être violent, il peut être prêt à tout, donc les dealers sont obligés de s'armer, ils sont obligés de s'armer pour défendre leur point de vue, etc. C'est une guerre. Faut bien comprendre que dans les quartiers, il y a une guerre avec des dealers. Donc quand vous êtes en guerre, vous avez besoin d'armes, et d'armes de plus en plus puissantes, parce que
vous êtes en train de me dire aujourd'hui que ça a changé de visage.
Pour moi, ça a complètement changé
le visage. Ça prend une nouvelle forme.
Oui, ça, voilà.
C'est et, ça
ouais, complètement.
Alors, moi, ce que disait Bibi Nassiri tout à l'heure, il y a, quand il était gamin, évidemment, aujourd'hui, c'est plus du tout le même schéma.
Complètement.
Non, mais ça a changé.
Je pense.
Ça a, il n'a pas tort.
Je pense
ça a changé.
Il n'a pas tort et il a tort à la fois parce que.
Ça a changé.
Je pense que le plus gros des bénéfices des dealers dans les quartiers, c'est le shit. Et je suis d'accord avec lui pour dire que c'est pas pour moi de la drogue douce, mais peu importe, c'est pas le sujet.
C'est la plus grosse part du marché.
Mais ça, il y a énormément d'argent.
J'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Mais avant, le mec dealait que du shit. Maintenant, il est obligé de dealer aussi de la coke, etc.
Je suis pas sûr de ça, mais.
Non, mais globalement, il doit protéger son point de vue.
Mais il a raison, Paul-Antoine. C'est vrai, c'est un
jeu de synthèse. Non, mais attendez. Voilà, c'est surtout les drogues de synthèse.
Et juste pour finir là-dessus, moi, je suis d'accord. Oui, il faut donner plus de moyens aux policiers, etc. Maintenant, moi, j'ai un gros problème avec ça. Donner plus de moyens aux policiers, il y a aucun problème. Maintenant, petit pic quand même, on peut pas faire la guerre en Ukraine et aller donner des moyens à nos policiers. Il y a un moment, la France, c'est pas la banque. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ok, on va donner des moyens à nos policiers. Nos policiers sont de plus en plus armés. Je crois, Bruno Pomar m'arrêtera si je me trompe, je crois que ça fait 5-6 ans que les policiers voulaient des armes de guerre après le Bataclan.
Oui,
maintenant, ils ont un G36 dans la voiture. Moi, sincèrement, je suis contre. Parce que le problème, c'est que vous avez des mecs en face, des trafiquants qui ont des armes de guerre qui viennent d'ex-Yougoslavie, qui tirent 30 balles à la seconde. Vous avez des flics en face, enfin, des policiers, pardon, qui ont des armes de guerre eux aussi. Et vous avez nous. Au milieu, on se balade peinard avec nos gamins et nous on a rien. Alors je dis pas que je veux qu'on ait des armes. Ce que je veux dire c'est que c'est pas en donnant des alors que la police ait des armes
c'est pas
encore
avec
fois,
plus d'armes.
Attention, mais c'est pas en mettant des armes qu'on va aussi régler le problème. Et juste pour finir, vous parliez des émeutes. Moi, j'ai pas les chiffres. Encore une fois, je crois tout à fait ce qui a été dit. Hein. C'est pas du tout ce que je dis. On parle de 10 000 personnes. Vous parliez de 10 000 personnes.
C'est un chiffre qui est.
Ouais, voilà. Je suis d'accord. Mais très bien. Mais c'est 10 000 mecs. Enfin,
c'est 10 000 de trop, je suis d'accord.
Ils doivent être en taule. En fait, le problème, c'est qu'il
n'y a pas de
réponse
pénale.
Mais ouais, mais ça, c'est pas. Non,
il y a plus
mais
il n'y a pas de réponse pénale.
Et on peut mettre la police.
Non,
la police, quand elle arrête le même mec tous les jours, après le flic, il
se fait. Non, mais t'as raison, mais
on vient de dire
c'est 76 000 personnes incarcérées, c'est-à-dire en Europe, je crois qu'on bat tous les records.
On en construit peu. Non, mais très bien. Mais il y a un moment, quand un mec qui crame un abribus et qu'il a 17 ans, je suis désolé, il va en taule. Point barre.
Mais il va en taule.
Mais non, il va plus.
Mais déjà, il va pas, il n'y a plus de place.
Non, et puis surtout, on a une justice qui est ultra laxiste. Depuis,
non, c'est pas justice depuis 5-6 ans. C'est une justice qui applique la loi. La loi, c'est que si tu prends moins d'un an, tu as un bracelet.
Oui, voilà. Et alors, du coup,
même vraiment... notre ex-président, il a eu bénéficié de ça, sinon il sera en taule.
Ah non, mais ça, c'est un autre sujet.
Non, mais je veux dire, tout le monde bénéficie de ça.
Bah oui, mais ça, c'est pas normal.
Juste un mot, il y a un truc qu'on n'a pas abordé quand même, c'est toute cette violence. Notre société est plus violente, notre pays est plus violent, c'est vrai. Mais à un moment donné, est-ce qu'on se pose la question de pourquoi cette violence ?
C'est social.
Alors, exactement. C'est-à-dire que sur les plateaux télé, encore une fois, on va vous expliquer que c'est l'arabe, que c'est le noir, que c'est le musulman, que c'est le maghrébin, etc. La réalité, c'est qu'il n'y a rien qui le prouve, que c'est l'immigration en général. Il n'y a rien qui le prouve. La seule chose, la seule corrélation qui a été faite avec la violence, c'est la précarité. Plus vous êtes dans la précarité, plus vous êtes dans une société précaire, plus vous êtes dans des quartiers précaires, plus vous avez de la violence. Ça ne justifie pas, ça n'excuse pas, mais il faut commencer à essayer de comprendre d'où vient cette violence pour pouvoir y apporter une réponse adaptée.
Alors, tu es d'accord ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Par contre, un bémol concernant les problématiques d'immigration clandestine, je précise bien, pas immigration économique, etc., parce qu'on en a besoin, hein. C'est important, hein, je crois que c'est clair là-dessus. Mais encore une fois, l'immigration clandestine qu'on voit actuellement nous pose des problèmes, de réels problèmes de violence. On l'a vu d'ailleurs, tu parlais de Nice hier, il y avait des OQTF et des mineurs isolés qui étaient dans le baston qu'on a vu. Bon, et à chaque fois qu'il y a un rassemblement comme ça, tu fais le test, moi chez les copains, évidemment je les ai au téléphone parce que comme je les ai dans les médias souvent, ils me filent des infos, à chaque fois on tombe sur les mêmes
mecs.
OQTF,
pourquoi
c'est terrible. Je parle pas des gosses des quartiers quand je dis ça, attention.
Oui, bien sûr, on est d'accord avec ça.
On peut faire la distinction,
tu ne penses pas, mais...
Je
ne pense pas que c'est les jeunes des quartiers.
Ah non, non.
On parle d'immigration, par exemple, on parle des viols. Il y aurait une recrudescence des viols parce que c'est les migrants, hein, pas les immigrés, les migrants qui violent.
Oui.
Les fourniraient, je peux citer plein de noms de violeurs, je peux citer de serial killers, c'est pas des musulmans.
Oui.
C'est la première chose. Et si on revient à l'histoire de c'est social. Moi, quand j'étais gamin, j'ai 60 piges, je le répète, quand j'étais gamin, les grands des quartiers, comme on dit dans les quartiers, les grands, on appelait les grands des quartiers, c'était pas des arabes ou des noirs, il y avait déjà pas de noirs.
Mais pourquoi laisse-moi finir.
Ne m'interromps pas, tu vas dire ce que t'as à dire, mais laisse-moi finir. Les grands des quartiers, les grands gens des quartiers, c'était pas des Arabes ou des Noirs, c'était des fils de Polonais, des fils d'Italiens, et ils étaient délinquants, c'est social, et c'est bien sûr
la violence
des immigrés qu'il y a de la délinquance, mais c'est logique, en Amérique, c'est les Italiens, maintenant les Portoricains, et ainsi de suite, c'est comme ça. C'est pas une histoire de race, c'est pas marqué dans le Coran.
Ce que je disais par rapport à ça, en fait, c'est que l'extrême droite essaye d'installer le fait que parce qu'on vient, ou parce qu'on est d'origine, ou parce qu'on ressemble à tel ou tel type de telle et telle ethnie, eh ben, on est foncièrement violent. C'est pas vrai, la violence, elle ne tire pas sa légitimité des origines ou des couleurs de peau.
Bruno Pomar, un message pour vous. Justement, s'il y a une régularisation, ces personnes ne seront-ils pas assimilées pour entrer dans la société? Question. Ces personnes ne seront-ils pas justement assimilées?
C'est en référence aux OQTF dont tu parlais.
OQTF. Si tu parlais
Ah, mais non, déjà, oui, on assimile plus, ça c'est une certitude. Mais encore une fois, il faut le faire de façon efficace pour notre pays, tout simplement. Et moi, je protège nos compatriotes. Parce que ceux qui souffrent le plus, c'est pas moi. Hein. Moi, j'habite dans les beaux quartiers, j'ai pas de problème.
Évidemment.
Je suis maire de mon petit village, mais vraiment pas de problème. Je pense à mes compagnons, aux gens que je connais dans les quartiers, j'en connais beaucoup. J'en connais même plus dans les beaux quartiers. Et eux souffrent beaucoup plus de toutes ces problématiques.
On est d'accord.
Lorsqu'on parle de cette immigration clandestine, qui est un vrai fléau,
on peut pas le dire.
Clandestine, je précise bien, c'est un vrai fléau. Si on accueille dans de bonnes conditions, quand tu vas sur les bords de Marne ou sur les bords de la Seine avec des mecs sous des tentes en train de dormir comme des clochards, accueillir.
Je voulais dire, je suis d'accord.
Est-ce que vous voulez qu'on parle du déficit public, les Républicains qui devraient se taire, ça c'est non. Bruno Le Maire qui se fâche, ou est-ce que vous voulez qu'on parle du Sénégal ou de la guerre en Israël? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous laisse le choix.
Sénégal, on passe une courte. Sénégal, c'est beaucoup plus intéressant.
Ouais. Il y a une vague de.
Non, c'est très intéressant ce qui est en train de se faire là.
Exactement.
Et Paul, il maîtrise le sujet, j'ai l'impression.
Bruno Le Maire, on peut en parler aussi.
Le Maire, on va en parler.
Il va pas très
longtemps.
On va en parler, messieurs, il n'y a pas de problème. À tout de suite, on marque une pause.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Avec notamment Bibi Nassiri, Paul-Antoine, Bruno Pomar et enfin Amin Sa. Nous allons parler, vous savez quoi, de ce fameux déficit qui est de 5,5%. Eh bien, sachez-le, après cette annonce, eh bien, beaucoup s'interrogent et se posent la question. Mais que fait le maire, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie? Qu'est-ce qu'il fait à Bercy finalement? À quoi sert-il? Même d'ailleurs, ça va très très loin. Et beaucoup, beaucoup de personnalités, donc chez les Républicains, eh bien, vous savez quoi, ils appellent à sa démission. Pour quelle raison, Amin Sa?
Que les Républicains appellent à la démission d'un ministre, c'est pas nouveau. Ils font ça très régulièrement. C'est presque la procédure interne.
Mais les Républicains qui appellent à la démission de Bruno Le Maire, c'est rare.
Qui est un ancien républicain.
Enfin, ils l'ont quand même mauvaise du fait de la trahison aussi. Oui. Et puis ils enchaînent les trahisons là avec Rachida Dati, etc. Bon, la réalité, c'est qu'est-ce que fait Bruno Le Maire à Bercy? Il écrit des bouquins. Voilà la réalité. Il fait rien d'autre qu'écrire des bouquins.
Il adore.
Je suis pas d'accord forcément avec Nicolas Dupont-Aignan qui hier matin dans la matinale de Sonia Mabrouk qui expliquait mais comment cet homme fait pour écrire 8 bouquins tout en étant ministre de l'économie compte tenu de la situation. Il faut se dire alors soit c'est pas lui qui les écrit.
Il a des plumes sûrement.
Soit c'est pas lui qui les écrit. Franchement autant ne pas les écrire. Soit il les écrit. Dans ce cas-là il n'assume pas son rôle de ministre.
Juste un dernier
mot sur le déficit. Enfin, quand même, ils se sont auto-fixés l'objectif de 3% et de cette rigueur des 3%. Ils sont au double aujourd'hui. À un moment donné, il va falloir qu'ils s'interrogent. Et je pense que, au-delà de la démission qui est demandée par les Républicains, je crois que le président de la République commence à réfléchir à changer de ministre de l'économie.
Bruno Pomar, et ensuite après, il faut qu'on parle du Sénégal.
Je crois qu'on est toujours on court après la dette, comme toujours, c'est clair. Mais je crois qu'encore une fois, nos gouvernants ne regardent pas. C'est-à-dire, on répond à tous les problèmes de notre société qui sont lourdes depuis les gilets jaunes. Donc on a ouvert les vannes et puis on arrose à chaque fois. Il y a un problème, pouf, on va filer 100 euros par-ci, 100 euros par-là. Certes, ça peut aider sûrement nos compatriotes qui en ont le plus besoin. Mais encore une fois, je pense qu'on ne sait pas faire de l'économie. Et c'est un peu comme l'Europe d'ailleurs. Hein. On a beaucoup, beaucoup de fonctionnaires. Et je l'ai été 36 ans, donc je suis bien placé pour le savoir. On a encore cette année, je crois, il y a eu plus de 50 000 fonctionnaires embauchés, collectivités locales, etc. Où va-t-on? On a fait ces grandes régions qui sont des doublons la plupart du temps. On est toujours en train de créer des structures au-dessus de notre structure. Tout ça coûte du pognon parce qu'il faut du personnel.
Encore une fois, il faut se poser la question. Mais comme ce sont toujours les mêmes technos qui nous gouvernent, ils sortent des mêmes écoles, ils apprennent les mêmes choses. Donc ils créent les mêmes choses. C'est un peu le.
C'est le serpent qui se mord.
Exactement. Et il ne faut pas s'étonner qu'on ait 5-5 de.
Très rapidement, pour les républicains, je pense que c'est un problème politique. Ils ont, à mon avis, très, très mal digéré. Faut le reconnaître, le très beau coup du RN, qui a quand même récupéré deux personnes intéressantes sur leur liste. Ils ont péniblement récupéré le général Gomard, donc ils sont assez loin. Donc je pense que politiquement, ils essayent d'exister, parce que leur liste, ça va aller, à mon avis, nulle part. Donc ça, c'est de la politique politicienne. Ensuite, sur le déficit, en fait, il faudrait que la France se mette sérieusement à créer de l'argent. C'est-à-dire que le gouvernement, la seule chose qu'il sait faire pour créer de l'argent, c'est créer un impôt. Mais créer un impôt, c'est pas créer de l'argent. C'est-à-dire que vous prenez de l'argent qui aurait dû être dépensé et vous le mettez dans les caisses de l'État. C'est pour payer des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, etc. C'est pas ça. Et d'ailleurs, c'est vraiment parce que les fonctionnaires.
Faut produire la richesse derrière.
Voilà, les fonctionnaires dont on a besoin, on est tous d'accord pour dire qu'il faut plus de policiers. Eux, bizarrement, il n'y en a pas. Non, c'est d'autres fonctionnaires, mais eux on n'a pas le droit. Voilà. Donc, il faut aider les entreprises. Moi, je le rappelle, je suis chef d'entreprise, on n'est pas aidé. La Startup Nation, c'est un rêve. Ça n'existe pas en réalité. Il faut aider nos petites entreprises. La France, c'est 95% de petites entreprises.
Il a raison, c'est ceux qui font la société.
J'ai rien française. Contre eux, mais c'est pas Total, bien sûr, c'est pas Airbus, etc. Encore une fois, on a besoin de ces entreprises-là aussi. Mais c'est ça. Et il faut aider ces petites entreprises à créer de l'emploi. C'est mathématique. Vous créez de l'emploi, donc vous donnez un salaire. Donc, les gens, ils peuvent du coup dépenser, etc.
Pourtant, Olivier Grégoire, c'est mathématique. Olivier Grégoire se bouge quand même sur le truc. Hein. Moi, je ne fais pas du partisan pour partisan, mais je trouve qu'elle se bouge sur les.
Mais non, mais le coût du travail est beaucoup trop important.
Oui.
Par exemple, tant qu'on ne reviendra pas sur ce tabou du coût du travail, vous embauchez quelqu'un à 1 500 €, globalement, ça vous coûte 2 700 €. Oui, oui, oui. C'est une aberration. Oui. C'est une aberration. Donc, que font les gens? Ils travaillent à l'étranger, ils sous-traitent en Europe, etc. C'est logique.
Et puis, l'État ne crée pas de richesse, il faut le rappeler.
Ouais, juste Bruno Le Maire qui avait dit qu'il mettrait la Russie à genoux et la Russie se porte super bien. C'est des gens, ils viennent là pour le job, ils viennent là certainement, je sais pas dire des choses à faire des accusations, mais ils viennent là pour le job et pour le salaire, et ils viennent pas là pour c'est pas des patriotes, voilà. Il faut mettre des patriotes au pouvoir, et c'est pour ça que les gens qui disent qu'ils vont pas voter, ils sont complices de ce qui se passe dans notre pays. Et ceux qui ont subi Macron, ou ceux qui ne l'ont pas subi, mais ceux qui prétendent avoir subi Macron et qui ne vont pas voter, ils sont complices de ce qui se passe en France. Il faut aller voter.
Tout à fait.
Là, on a jusqu'au 5 mai, il faut aller voter. Si vous n'avez pas voté, fermez-la.
Ouais. Oui, c'est vrai, il faut aller. Moi, je le dis tout le temps en permanence ici, effectivement, il faut aller s'inscrire pour pouvoir, évidemment, s'armer de ce fameux bulletin. Je voudrais qu'on parle du Sénégal, messieurs, parce que ce qui se passe là, c'est très, très important. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'angle. Alors, à la fois, on va parler de cette jeunesse sénégalaise, mais surtout, que va-t-il se passer avec ce tout nouveau partenariat avec la France? Vous savez, Emmanuel Macron, il courtise déjà le tout nouveau jeune président. Qui veut prendre la parole? Tiens, Paul-Antoine, rouliez-vous.
Pour moi, c'est vraiment historique.
Historique, oui. C'est historique.
Je pense que c'est le début de la fin de la fin de la France-Afrique,
ouais,
ce qui est excellent. C'est la colonisation, c'est fini. La France-Afrique, c'est fini. C'est pas encore complètement fini.
Oui,
il reste à la France,
dire,
le Sénégal. Ouais, enfin, il reste le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Après, c'est fini, hein, globalement. Donc, pour moi, c'est très bien. J'aimerais quand même que la France quitte le Sénégal
fini, hein,
dans de bons termes. Ah, pas encore. Il nous reste 350 soldats. Il nous reste une base aérienne. Il y a une escadre navale. Il y a encore un peu de monde.
Et une langue.
Ouais, donc moi je trouve ça très bien qu'on quitte le Sénégal de ce point de vue-là. J'aimerais par contre que ça se fasse très bien, pas comme au Mali, où on est parti dans de très mauvais, en très mauvais termes. Donc,
la situation n'était pas la même au niveau.
Oui, la situation n'était pas la même, mais ce serait quand même bien qu'on quitte le Sénégal d'une bonne manière. Moi, le choix du peuple sénégalais, déjà, c'est le choix du peuple sénégalais, donc ça, il doit être respecté. Je trouve ça très bien. Ça prouve aussi que la France n'a rien fait, parce qu'on nous dit aussi souvent, oui, la France est responsable de tout en Afrique, il ne faut pas non plus déconner. Il était en prison il y a 2 semaines. Je pense qu'au Sénégal, la France contrôle encore pas mal de choses et contrôler beaucoup de choses. Si on n'avait pas voulu qu'il soit président, je pense que il lui aurait arrivé un Navalny en prison. Donc juste pour finir, et ça pour moi ça prouve qu'il y a quand même une démocratie au Sénégal, ça prouve que la France se retire complètement, qu'on le veuille ou non, c'est très bien.
Bruno Pomar.
Et en même temps, on a aussi besoin de ça parce qu'on est quand même le premier investisseur là-bas. Il y a quasiment 250 ou 300 entreprises implantées au Sénégal, c'est pas rien. Hein.
Oui,
on apporte de l'économie aussi.
Non, mais ça c'est différent. Ça c'est pas la France. Ça c'est des entreprises françaises. Pardon, je coupe la parole. Ce que je veux dire, c'est que
elles sont françaises.
Oui, mais il faut que la France, d'un point de vue politique, militaire, etc., quitte le Sénégal. Après qu'on ait qu'un chef d'entreprise aille au Sénégal, ça c'est très bien.
Vous dites la même
qu'on
chose.
Garde la langue. Oui, bien sûr.
Qu'on garde la langue et la culture dans les bonnes conditions. Si on quitte le Sénégal dans les bonnes conditions,
le seul problème, les amis, c'est que comment ça se fait au Mali et ailleurs, il y en a d'autres qui vont prendre la place. Ça veut dire
les Russes, les Chinois, ça, c'est un avec les mercenaires.
Mmh. Nous, on l'a fait. C'est le travail de la France, de Bob Denard, on l'a fait,
du président. Et là, maintenant, eux vont venir. Et ils n'ont pas de... Tu parlais de la France-Afrique, tu as raison, mais ils vont, c'est une forme de colonisation.
Je suis complètement d'accord.
Ils vont arriver, vous nous filez une mine, on va vous construire un stade. Et c'est exactement ce qui se passe.
Ça veut dire
ils vont les exploiter, les Sénégalais sont des idiots. Une main devant, une main derrière.
Ça veut dire que les Sénégalais sont des idiots. On va leur construire un stade et ils vont se faire acheter.
Ce qui est très intéressant, c'est que le président se dit souverainiste, et ça c'est très bien. J'espère juste qu'il va quitter, donc que la France va quitter, notamment avec le France CFA. Par contre, j'espère juste qu'il est vraiment souverainiste et que c'est pas la France quitte pour que la Chine et la Russie. Où les États-Unis viennent, évidemment.
Aminsa, et ensuite Bibi Nasseri.
Oui. Tout à l'heure,
il y a le code 9 dans deux minutes.
L'envoyé spécial tout à l'heure faisait référence à Mandela dans la manière dont le nouveau président est arrivé au pouvoir. J'irai pas jusque-là dans la comparaison, mais néanmoins. J'aimerais quand même.
Le jeune, c'est pas Nelson Mandela, ça.
Et puis surtout, il est devenu président 4 ans après être sorti de prison, ce qui est pas le cas là. Puisqu'il était en prison il y a une dizaine de jours.
Je te coupe une seconde. Je te coupe, il est président parce que celui qui était censé être président est en prison pour plus longtemps.
Wade, le fils Wade.
Juste pour revenir sur ce que je disais, on le dit pas assez, notamment dans le débat public ici en France. Le Sénégal est une grande démocratie. Le Sénégal est une grande démocratie. Et la manière dont s'est déroulé le scrutin pourrait nous donner des leçons ici en France, notamment aux États-Unis, quand on a vu la catastrophe que ça a été l'élection de Biden face à Donald Trump. Il y a des grandes démocraties en Afrique. Le Sénégal en est un exemple parfait.
Pour combien de temps ?
On verra. En tout cas, on a eu quand même une élection où il y a eu près d'une vingtaine de candidats, où tous les candidats, au soir de l'élection, ont appelé le candidat élu pour le féliciter et reconnaître sa victoire. Donc ça, c'est extrêmement important dans une démocratie. Et puis surtout, j'ai envie de dire, le Sénégal, au-delà des investissements, je suis pas totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le Sénégal devrait exclusivement accueillir des investisseurs français ou européens ? Chinois, des Russes, ou autres aillent investir en Afrique. Enfin, nous, on va investir dans plein de pays du monde. On commerce avec le monde entier. Le monde entier commerce avec nous. Pourquoi est-ce que le Sénégal devrait exclusivement travailler
parce que c'est notre intérêt.
C'est pas vous spécialement que je vise là, mais c'est l'esprit que l'on a ici en France là-dessus.
C'est l'intérêt de la France que nos entreprises aillent
là-bas. Justement, Bibi Nasseri.
Il faut qu'on commence à regarder l'intérêt des populations locales pour éviter demain de dire ils viennent trop chez nous.
Non, mais si tu écoutes, si on a tous.
Non, mais c'est pas toi que je vise.
Oui, je suis d'accord. On a tous des amis, on connaît tous des Maliens, des Camerounais, il y a plein de démocrates. Ouais. C'est l'image qu'on donne de ces pays-là.
Exactement.
En prétendant qu'ils ont besoin de la France, ce qui est faux. Et il faut faire confiance à ce jeune président qui va peut-être continuer déjà.
En tout cas, il y a une aspiration de la part de la jeunesse au Sénégal et en Afrique de manière générale. Je pense que le Sénégal peut être un exemple pour les pays qui l'entourent. Et surtout, il faut quand même qu'on garde ça en tête. L'Afrique est un pays extrêmement jeune. Et là, la jeunesse a joué un rôle important dans cette élection-là. Et la fin de la France-Afrique, ce sera la fin du franc CFA.
Et ça, c'est
tant qu'il
bien.
Y aura le franc CFA, la France-Afrique
sera
pas très
bien.
Mais d'ailleurs, il a dit qu'il voulait revenir sur le franc CFA. Donc ça, c'est génial.
Il a posé ça comme mesure.
On va voir si Emmanuel Macron l'accepte. Je comprendrais pas qu'il l'accepte pas vu la politique qu'il a, etc. Il faut mettre fin au franc CFA et ça, c'est une évidence.
Et on peut pas appeler au développement de l'Afrique et
tout
maintenir l'Afrique dans sous cette coupe qu'est le franc CFA.
Mais pour moi, la France se disparaîtra en même temps.
Ouais, bon. On l'a vu avec Barkhane.
Pour moi, ça a été un symbole pour moi.
On verra.
Le Sénégalais, c'est des Français. Ouais, dans l'esprit.
Ouais, je ne sais pas, la question se pose
en tout cas.
Le jeune, non. Oui. allez, c'est parti. Vous savez quoi ? Tout de suite, le quoi de neuf ?
Les informés. Le quoi de neuf ?
Comme chaque mercredi, vous savez, c'est avec le docteur Majid Sioussine. Bonjour, le professeur. Comment ça va, docteur ?
Ça va très bien, je vous remercie.
Bon, écoutez, heureux de vous accueillir et heureux surtout de vous entendre avec votre billet d'humeur comme chaque mercredi. Vous allez, paraît-il, nous parler de déficit d'attentats de Moscou et de France Info. Tiens, allez, allons-y.
Écoutez, mon cher Adil, nous sommes fauchés.
C'est ce qu'on disait à l'instant.
Plus un flush. La France est réduite à finir comme un joueur rapido au comptoir du PMU, qui ne compte plus sur la chance que son propre travail pour gagner quoi en
bourse. C'est pas mal. L'entrée est pas mal, effectivement. Il est beau. Allez-y, docteur, allez-y, parce que sinon on va se mettre en retard. Là. Allez-y.
À force de se comporter comme un prince russe en exil, nos finances n'ont jamais été aussi mauvaises. François Fillon avait dit, il y a bien longtemps déjà, qu'il était le premier ministre d'un pays en faillite. Gabriel Attal apparaît proposer lui de vendre un rat pour aider à rembourser la dette. Tout de même, 5,5% de déficit, 3 000 milliards de dette publique, 111% du PIB, contre 98% seulement en 2019. Nous avons brûlé la chandelle par les deux bouts. Nous sommes désormais un vrai pays du club méditerranéen, comme le disaient avec mépris les Allemands. Notre seule chance, c'est un homme trop gros pour pomper, big to face. Mais ça nous prend quand même des lendemains qui dépendent un jour ou l'autre, et surtout, des pleurs qui vont couler. Je propose en tout cas une standing ovation à tous ces gouvernements qui, depuis 50 ans, ont été incapables de faire voter un budget à l'équilibre. Nous verrons en 2027 si Marine Le Pen, future présidente, et Jordan Bardella, futur Premier ministre, feront mieux. En attendant, Jordan Bardella, copiant le RPR et l'IDF de 1991, organise des états généraux de l'immigration qui, pour tous ces politiques incapables, constituera toujours un bouc émissaire commode de tous ces problèmes qui ne savent pas régler. Et comme ce brave Jordan Bardella ne sait pas écrire, figurez-vous, mon cher Adil, qu'il fait corriger son livre par un confrère à vous, Jean-François Akili, présentateur vedette sur France Info, qui interviewe chaque jour un leader politique, a en effet eu une collaboration étroite sans en informer sa hiérarchie, avec le leader du RN. Pour des journalistes supposés dénoncer les conflits d'intérêts, en voilà un de majeur. Comment pourra-t-il interroger désormais? On peut en dire autant d'ailleurs de Léa Salamé, qui a des relations plus qu'étroites avec M. Glucksmann et qui va devoir se déporter à l'antenne à partir d'avril, pourquoi pas un petit peu plus tôt.
Très juste, ouais, effectivement.
Ça nous rajeunit, mon cher Adil, et nous ramène à l'époque de François Mitterrand, président, qui avait comme ministre Dominique Strauss-Kahn, votre complice de virée nocturne.
Oh, et... clochette, vous avez droit à une clochette. Attention, hein.
Et Bernard Kouchner, qui était respectivement marié à Anne Sinclair et Christine O'Krent, deux grandes journalistes politiques bien connues. Heureusement qu'aux informés, personne n'a de conflit d'intérêts. En tout cas, un autre événement de nos agents nous a rappelé que nous n'étions pas tout à fait en sécurité. L'attentat barbare de Moscou qui a réveillé le triste souvenir du Bataclan nous marque terriblement. Moi, je suis tout de même un peu rassuré après avoir vu cette magnifique photo de notre président Mohamed Ali Macron frappant dans un sac de boxe, la mâchoire serrée et le bicep.
Il est bon. Allez-y, allez-y.
Le biceps, mais quel biceps a-t-il gonflé par Photoshop
comme Amine, tu vois.
Quelle chance nous avons d'avoir.
Il est trop fort, il est énorme.
C'est bon, ça.
Ah, c'est bon, hein, c'est bon. Merci, docteur Majid.
Mais c'est vrai que ce lien entre journaliste et homme politique, c'est vrai, il a raison. Depuis des années, c'est. Comment il s'appelle Borloo également. Avec,
Vous entendez, docteur, ce que vous dit Bruno Pomar?
Tout à fait.
Borloo avec Schoenberg.
Tout à fait.
Ouais. Merci, docteur Majid Soussine.
LCI, qui était conseiller régional du Front National et aujourd'hui.
Absolument.
Oui. Jacobini.
Merci. Non, Front merci, National. Docteur. Je vous libère, on est en retard. Merci, docteur Majid Soussine. Bruno Pomar, merci au plaisir.
Merci à vous. Merci.
À très vite. Merci, Amine Sarr.
Merci à vous.
Bébina Siri au
allez voter, allez voter.
Merci de me faire rencontrer des stars.
Oh la classe. Regardez, il s'est fait tatouer Red. Il est beau.
Macron, il a un bicep. C'est comme
si
j'entends.
C'est lui qui m'a tatoué la photo de.
Merci à Potil et la réalisation. À demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.